L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout.
Ah oui, c'est le sujet du moment.
Dans les médias, au gouvernement, dans les entreprises. Bon, les grands débats, on les connaît.
Mais la vraie question, c'est sur le terrain.
Exactement. Que se passe-t-il vraiment, concrètement, dans les salles de classe?
Alors, aujourd'hui, on a décidé de laisser de côté les grands rapports nationaux.
Pour regarder un truc beaucoup plus concret.
Oui, on a mis la main sur un document fascinant, le plan de formation sur 2 jours, les 14 et 15 janvier, pour les enseignants et le personnel d'un collège, le collège Leclerc, à Saint-Gaudens.
Une initiative très locale, donc. C'est ça. Et notre mission, c'est de décortiquer ce plan pour comprendre comment, aujourd'hui, on essaie de préparer les éducateurs à l'arrivée de ces IA génératives. Qu'est-ce que cette approche de terrain nous révèle? Alors, si on plonge dedans, la toute première partie du plan, ça s'intitule « Comprendre le fonctionnement des IA génératives et leurs limites pour poser un cadre
».
Ce qui me frappe tout de suite, c'est cet ordre. On commence par les limites. C'est une approche très prudente, presque défensive, non?
On pourrait le voir comme ça.
On insiste sur les dangers avant même d'avoir exploré le potentiel. Est-ce que ça ne risque pas de tuer un peu l'enthousiasme?
C'est une très bonne question. Mais je crois que c'est tout l'inverse, en fait. C'est un choix pédagogique qui est extrêmement malin.
Ah oui?
Il faut se mettre à la place des profs. Ce ne sont pas forcément des technophiles. Ils sont en première ligne. Ils ont des responsabilités.
Bien sûr.
Et leur première réaction face à un outil aussi puissant, c'est souvent la méfiance. La peur de la triche, la peur de perdre le contrôle.
D'être dépassé, tout simplement.
Exactement. Et en commençant par les limites, parce que l'IA fait mal, ses hallucinations, ses biais, on ne tue pas l'enthousiasme, on le rend possible.
On dégonfle le mythe.
C'est ça. On passe de la science-fiction à un outil de travail, avec un mode d'emploi et des avertissements. On démystifie.
D'accord, je vois. L'idée, c'est de rassurer avant d'embarquer, de dire... Ok, n'ayez pas peur, on sait que cet outil n'est pas parfait et on va vous apprendre à gérer ça.
Précisément. Et le point « poser un cadre » est absolument central.
C'est-à-dire?
Ça veut dire qu'on ne va pas les laisser seuls face à ça. On va décider ensemble, dans l'établissement, ce qui est acceptable ou pas. Comment on utilise l'IA pour les devoirs? Comment on cite une source générée par IA?
On établit des règles du jeu.
Voilà. En posant des règles claires, on crée un espace de sécurité psychologique. Et c'est seulement dans cet espace que la créativité, l'expérimentation, que tout ça peut vraiment commencer.
On construit les fondations avant de monter les murs.
C'est exactement l'image. Des fondations en béton.
D'accord, je comprends la logique. Une fois que ce terrain est balisé, on peut commencer à construire. Et la deuxième partie du plan, justement, s'attaque à la prise en main de l'outil. Elle s'appelle « Dialoguer avec les IA génératives ». Et il y a un sous-titre que je trouve assez génial, « Quand le langage courant permet de parler avec des machines ». Conversation.
C'est ça. On sort du jargon pour revenir à l'essentiel. C'est un dialogue. Mais attention, un dialogue qui a ses propres règles.
Et c'est là qu'intervient le fameux « prompt ».
Exactement. La maîtrise du prompt, de l'instruction qu'on donne à l'IA, ça devient une compétence. Mais vraiment centrale. Ce n'est pas juste... taper une question dans Google.
C'est plus subtil.
C'est un art. Un mélange de clarté, de précision. Il faut apprendre à donner un rôle à l'IA, un contexte, à préciser le format de la réponse. C'est une nouvelle forme de littératie, en fait.
Et dans ce prompt, il y a un point qui a vraiment attiré mon œil. Défi prompt, avec le point d'exclamation.
Ah oui!
Ça suggère un truc actif, ludique. Mais bon, au-delà de l'aspect amusant, est-ce que c'est vraiment efficace? Ce n'est pas un peu gadget?
Au contraire, je pense que ce défi prompt est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Ce n'est pas qu'un jeu.
Expliquez-moi.
C'est une porte d'entrée déguisée vers la pensée computationnelle. Pour réussir le défi, l'enseignant va devoir faire quoi? Il va devoir décomposer une idée complexe en instructions claires, logiques.
D'accord.
Il va devoir anticiper comment la machine pourrait mal interpréter sa demande et la reformuler. En fait, sans s'en rendre compte, il apprend... les bases de l'algorithme, mais avec ses propres mots, pas avec du code. C'est ça qui est brillant.
Est-ce que vous auriez un exemple concret? Comment ça se passerait, ce défi, en vrai?
Bien sûr. Prenons un professeur de français. Le défi pourrait être « Faites écrire à l'IA un dialogue entre Molière et un rappeur contemporain sur l'hypocrisie sociale ».
D'accord, c'est ambitieux.
Très. Un premier prompt un peu simple du style « Écris un dialogue Molière et un rappeur » donnerait un résultat plat, caricatural.
Ouais, j'imagine.
Pour réussir le défi, il faudrait affiner. Adopte la personnalité de Molière, utilise d'Alexandrin, un vocabulaire du XVIIe siècle. Maintenant, adopte la personnalité de Jules, utilise des rimes simples, des expressions marseillaises.
Ah oui, on devient ultra précis.
Voilà. l'enseignant apprend par essai-erreur à être de plus en plus directif. Il ne subit plus l'outil, il le pilote. Ce n'est pas un gadget, c'est un simulateur de vol.
Je comprends beaucoup mieux. On passe de l'utilisateur passif au pilote actif. Ok. Alors, une fois qu'on a compris les limites et qu'on s'est parlé à la machine, la question qui brûle les lèvres de tous les profs, c'est « Bon, mais concrètement, j'en fais quoi en classe ?»
C'est la question clé, bien sûr.
J'ai l'impression que c'est exactement l'objet de la troisième et dernière partie du plan qui est consacrée aux usages pédagogiques.
C'est le moment de vérité, en effet. C'est là que la formation doit prouver qu'elle est utile au quotidien.
Et là encore, le plan commence avec une prudence que je trouve intéressante. Le tout premier sous-point, c'est une question.
Laquelle ?
IA et pédagogie. Des plus-values ? Ce point d'interrogation m'interpelle. Après quasiment 2 jours de formation, si on se pose encore la question de la plus-value, ce n'est pas un peu inquiétant ? On pourrait se dire s'ils ne sont même pas sûrs que ça sert à quelque chose.
C'est une excellente remarque. Mais je l'interprète d'une autre façon.
Allez-y.
Pour moi, ce point d'interrogation, ce n'est pas un signe de doute, c'est une marque de respect intellectuel.
C'est-à-dire ?
Ça indique que la technologie n'est jamais une solution magique. La plus-value, elle n'est pas dans l'IA, elle est dans le projet pédagogique de l'enseignant. Le message, c'est « on ne va pas vous donner de recettes miracles ».
Mais plutôt des ingrédients.
Exactement. On va vous donner des ingrédients et on va réfléchir ensemble à comment elles peuvent améliorer votre cuisine pédagogique. Ça place l'enseignant au centre, comme concepteur, pas comme simple exécutant. La pédagogie, d'abord.
D'accord, c'est une posture d'humilité qui force à la réflexion. Et juste après, le plan devient très pragmatique, avec le point « produire des ressources pour la classe, l'IA comme assistant ».
Ah, ça, c'est l'argument massu.
C'est ça, le fameux « gain de temps ». J'imagine que c'est très efficace pour convaincre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, à force, que l'enseignant devienne un simple manager de contenu et perde sa propre créativité, sa patte ?
Le risque existe, c'est certain. C'est toute la différence entre une délégation intelligente et une externalisation paresseuse.
Et c'est là que la formation joue un rôle.
Bien sûr, elle doit montrer comment être un utilisateur exigeant de cet assistant. Prenons un prof d'histoire sur la Révolution française. L'usage paresseux, c'est de demander « Fais-moi un résumé de la prise de la Bastille ».
Ok, facile.
L'usage intelligent, créatif, ce serait de demander « Génère-moi 3 textes courts sur la prise de la Bastille. Un du point de vue d'un gardé royal terrifié, un d'un révolutionnaire exalté et un d'un marchand du quartier qui s'inquiète pour sa boutique. Et le tout adapté à des élèves de 4e. »
Ah oui, là on voit tout de suite la différence.
L'IA n'a pas remplacé la créativité du prof, elle l'a démultipliée. Elle lui a permis de créer en quelques minutes un support hyper riche qu'il aurait mis des heures à faire seul.
C'est un excellent exemple. L'IA comme levier, pas comme remplaçant. Et le plan, ensuite, il opère une bascule vraiment intéressante.
Laquelle ?
Après avoir vu l'IA comme l'assistant du prof, le point suivant, c'est proposer aux élèves des activités avec l'IA. Et là, on change complètement de dimension.
Oui, l'outil entre dans la salle de classe, dans les mains des élèves.
Et avec ça, j'imagine, tout un tas de nouveaux défis. Le premier étant, comment on s'assure qu'ils apprennent vraiment et qu'ils ne se contentent pas de demander la réponse à la machine ?
C'est le nœud du problème. C'est le véritable enjeu pédagogique. Si on donne l'IA à un élève pour faire une dissertation, on n'évalue plus son travail, on évalue son copier-coller.
Donc il faut tout repenser.
Absolument. Et c'est pour ça que le dernier point du plan « Accompagner les élèves », c'est la clé de voûte de tout l'édifice.
L'accompagnement change de nature ?
Complètement. L'enseignant n'est plus seulement celui qui vérifie le résultat final. Il devient celui qui guide et qui évalue le processus d'interaction avec la machine.
Le processus ? Comment ça ?
J'ai un collègue chercheur qui a fait une expérience là-dessus, c'est passionnant. Il a demandé à ses étudiants d'utiliser ChatGPT pour un essai.
Ok.
Mais la note finale ne dépendait pas du tout de la qualité de l'essai produit par l'IA. Elle dépendait de 2 choses qu'ils devaient rendre.
Lesquelles ?
Premièrement, le journal de bord de tous leurs prompts, qui montrait leur dialogue avec la machine, leurs erreurs, leurs réformulations. Et deuxièmement, un texte critique analysant les forces et les faiblesses du texte de l'IA.
Ah, c'est malin !
Le résultat de l'IA n'était que la matière première. Le vrai travail évalué, c'était la démarche intellectuelle de l'étudiant. Voilà ce que veut dire accompagner. On n'évalue plus le quoi, on évalue le comment. On apprend aux élèves à devenir des chefs d'orchestre.
C'est une transformation profonde du métier, en fait. On passe d'un enseignant qui transmet un savoir à un enseignant qui apprend à apprendre, qui apprend à questionner les sources, y compris quand la source est une machine.
Exactement. Le rôle de l'enseignant devient encore plus crucial. Face à une source qui peut générer une infinité d'infos, vraies ou fausses, le prof devient le garant de la méthode, de l'esprit critique.
Sa mission n'est plus de remplir des têtes,
mais de les structurer pour qu'elles puissent naviguer dans cet océan d'informations sans se noyer.
Si on récapitule, ce plan nous dessine un parcours très logique. D'abord, on sécurise, on démystifie.
On pose le cadre.
Ensuite, on passe à la pratique. On apprend à piloter l'outil via l'art du prompt.
De manière ludique et intelligente.
Et enfin, on explore les applications en classe, mais de façon très progressive. D'abord pour soi, comme assistant, puis pour les élèves, en redéfinissant complètement le rôle d'accompagnateur. Ça semble incroyablement bien pensé.
Et ce qui est fascinant, c'est que ce plan local, pensé pour un petit collège de Saint-Gaudens, est en fait un microcosme des meilleures pratiques qui émergent partout dans le monde.
Il évite les grands pièges.
Oui, les deux grands écueils. D'un côté, la technophobie, le rejet anxieux. De l'autre, le solutionnisme technologique, cette croyance un peu naïve que l'IA va tout résoudre par magie.
L'approche est ailleurs.
Elle est pragmatique, critique, constructive. Au final, l'accent n'est pas mis sur la technologie. Il est mis sur la compétence la plus humaine qui soit, la pensée critique.
En somme, ce qui se dégage de ce document, ce n'est pas une obligation d'utiliser l'IA, mais plutôt une invitation à l'apprivoiser intelligemment.
C'est une bonne formule.
Une volonté claire de ne pas subir la vague, mais d'apprendre à naviguer dessus, avec prudence, mais aussi avec ambition.
Tout à fait, ça donne du pouvoir aux enseignants, ça les rend acteurs de la transformation et non pas juste des objets qui la subissent.
Et si on voulait ouvrir un peu la réflexion, ce plan, aussi admirable soit-il, il soulève une question encore plus vaste, non ?
Ah, je vois où vous voulez en venir.
Il se concentre brillamment sur comment utiliser l'IA à l'intérieur de l'école.
Dans un cadre protégé.
Mais ça nous oblige à penser à l'étape d'après. Comment on prépare ces mêmes élèves à un monde où l'IA sera partout, mais en dehors de l'école ? Sans cadre, sans filtre, sans l'accompagnement bienveillant d'un prof.
La formation des enseignants est la première étape. Elle est indispensable. Mais quelle est la suivante pour former des citoyens numériques vraiment autonomes, critiques, capables de garder leur libre arbitre ? C'est sans doute le défi majeur pour l'éducation dans les 10 prochaines années.